Martin Allende, qui est agent de défense de droit chez Execo. Bonjour, M. Allende.
Oui, bonjour, Mme Pellerin.
M. Allende, on vous a demandé de venir à notre émission pour parier la diminution du budget en accessibilité universelle de la Ville de Montréal. Mais dans les derniers jours, quand même, vous avez eu une rencontre avec la Ville de Montréal et il y a eu des développements par rapport à ça. Donc, pouvez-vous nous mettre à jour là, sur le projet là, au moment où on se parle, où vous en êtes rendu avec l'accessibilité universelle à la Ville de Montréal?
Oui, ben, lorsqu'il y a eu le dépôt du budget de la Ville de Montréal, il y a des membres de notre organisme qui nous ont informés qu'il y avait eu des coupures dans des programmes pour l'accessibilité universelle. Donc, on a vérifié, puis on a constaté la réduction des montants à deux programmes. Il y avait le programme aménagement urbain inclusif qui vise à ce que les infrastructures construites par la Ville intègrent l'accessibilité universelle à chaque étape des projets, qui a été coupé de 4,5 millions à 3,3 millions pour cette année. Donc une baisse de 1,2 million. Et il y avait aussi le programme en accessibilité universelle des bâtiments municipaux. Ce programme-là sert aux arrondissements de rendre leurs bâtiments plus accessibles. C'est pour les bâtiments qui sont existants. Il y avait un budget de 3 millions à ce programme-là. Et cette année, ça passait à 354 000 et 0 $ pour 2027.
Oh, quand même, hein?
Oui. Donc, on a interpellé les services responsables de ces programmes-là lors de la commission des finances. On voulait s'assurer qu'on avait bien compris que c'était pas des budgets déplacés, mais que c'était vraiment des coupures. Donc, ils ont confirmé que c'était que ces coupures-là auraient bien lieu et que c'était une décision qui avait été prise en raison des orientations budgétaires de la Ville. Donc, on a donc été poser des questions, questionner les élus à ce sujet-là lors des conseils municipaux suivants. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup d'organismes comme le nôtre là, qui ont participé au chantier en accessibilité universelle de la Ville pendant plus que 4 ans.
Oui.
On avait été critiques envers ce processus-là parce qu'on trouvait que les choses n'allaient pas assez vite. Mais bon, finalement, il y avait eu un plan d'action. Il y a eu un plan d'action en accessibilité universelle 2024-2030 qui a été adopté par la Ville. Et ben, comme l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments municipaux était un des objectifs du plan d'action. On a été un peu consternés de voir que le budget qui aurait pu permettre d'y arriver a été coupé.
Et là, vous avez fait une rencontre avec les gens de la Ville et la nouvelle administration, en fait, parce que l'administration vient de changer également. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu à ce moment-là là, face à vos inquiétudes?
Oui. On a une rencontre avec M. Claude Pinard, qui est le président du comité exécutif, et la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, qui est notamment la responsable de l'accessibilité universelle à la Ville de Montréal. Donc, ce qu'ils nous ont répondu, c'est que ces coupures-là avaient été planifiées avant les élections. Ils sont engagés à rétablir les montants au plus tard dans le prochain budget, l'année prochaine, et si possible cette année. Donc, ils nous ont dit qu'ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour cette année. Donc, on va faire le suivi pour s'assurer que ces sommes-là seront bien rétablies au plus tard pour dans le prochain budget.
Mais quand même, ça veut dire qu'il y a quand même eu des coupures qui seront pas remises dans les prochaines semaines. Donc ça, j'imagine que malgré la bonne volonté de remettre l'argent en place dans les prochains mois ou l'année prochaine, ça doit avoir des impacts, là.
Ben oui, ben nous, notre crainte, c'est que des projets qui visent à améliorer l'accessibilité de bâtiments municipaux existants soient reportés ou abandonnés par des arrondissements, par manque de financement. Il faut savoir que plus qu'un projet est long à réaliser, plus qu'il finit par coûter cher.
Oui.
Donc, sans l'aide financière de ces programmes, du programme notamment pour l'accessibilité des bâtiments municipaux, nous, on craignait que des arrondissements doivent renoncer à des projets. Je peux donner un exemple de bâtiment existant qui était pas ou peu accessible. Un petit peu plus qu'un an, je crois, l'arrondissement de Rosemont nous avait invité à une rencontre au parc Parc Marquette. Mais en arrivant, j'ai constaté qu'il était possible d'entrer dans le bâtiment, mais que juste un peu plus loin, il y avait des escaliers seulement pour accéder au local où avait lieu la rencontre. Donc, à ce moment-là, on nous avait dit l'ajout d'un ascenseur, c'est prévu dans les prochaines années. Donc, c'est un exemple de choses à quoi peut servir ce programme-là. Donc, c'est ça, quand on a vu les coupures dans ce programme-là, est-ce que ce type de projet-là va être soit reporté ou carrément abandonné?
Étant donné que ça bouge très vite aussi dans le municipal, on peut penser qu'effectivement, le fait de ne pas avoir le budget immédiatement, ça peut avoir des impacts, là, étant donné qu'il faut quand même avoir des chiffres là, pour pour mettre en chantier des projets comme ça, qui sont des projets d'envergure qui coûtent très cher. Donc, on peut penser qu'effectivement, il y a plusieurs projets qui vont être abandonnés. Et puis, tu sais, j'imagine aussi que c'est beau, les promesses, et on remercie la Ville de Montréal d'avoir remis ces budgets-là, mais j'imagine que ça crée quand même une incertitude là, pour les gens qui veulent faire des projets, de se faire dire que ça va revenir, mais on ne sait pas trop quand. Et puis, cette incertitude-là peut aussi mener à des craintes, puis à des chantiers qui vont être abandonnés.
Oui, ben lors de la commission des finances, on a posé la question, est-ce qu'il y a des projets qui vont être reportés ou abandonnés, combien, mais on nous a pas donné de réponse directement. Donc, il faudrait vraiment voir par chaque arrondissement c'est quoi les conséquences. Ce qu'ils nous ont répondu, c'est qu'ils pouvaient continuer à travailler à l'élaboration des projets, mais au moment de la commission des finances, donc avant la rencontre avec les élus, ce qu'on nous disait, c'est que les sommes seraient décaissées dans ce programme-là pour aider les arrondissements seulement en 2028, à part le 354 000 $ de cette année-là.
Mais c'est difficile quand même de prévoir des projets quand on n'est pas sûr de savoir quand le budget va être débloqué, non?
Ben oui, en effet, c'est sûr.
On veut bien, mais déjà, tu sais, c'est des sommes qui sont monumentales. Si en plus, tu ne sais pas quand l'argent va arriver, supposé arriver, mais on ne sait pas quand, c'est quand même dur à défendre là, pour un arrondissement là, au niveau des constructeurs, au niveau des partenaires. T'imagines que c'est dur de le mettre en place puis de vendre un projet aussi quand on ne sait pas quand l'argent va arriver.
Ben effectivement, puis bon, je pense que c'est pas ça touche le milieu de la construction en général. Là, les entrepreneurs, dans le fond, souvent, ne sont pas disponibles avant un certain temps.
Oui. Donc, il faut prévoir.
Si c'est pas possible de planifier en sachant que les budgets vont être là, c'est sûr que des fois les entrepreneurs vont prendre d'autres contrats puis ils sont plus disponibles. Donc c'est la pénurie de main d'œuvre, ça touche tout milieu de la construction. Oui. Effectivement, pour les arrondissements aussi là qui auraient des projets, effectivement de pas avoir le savoir si on va avoir accès à ces budgets-là, c'est sûr que ça peut avoir un impact.
Puis vous dites bien également, les projets qui sont reportés, bien, éventuellement, vont coûter plus cher. Donc, il faut prévoir un dépassement de coûts, puis peut-être que le dépassement de coûts, on ne sera pas capable de gérer. On n'aura pas les moyens à ce moment-là d'absorber le dépassement de coûts.
Oui, bien, c'est notre crainte.
Et parlez-nous un peu plus, quel a été votre rôle à Execo dans les rencontres? Vous avez dit que donc des membres vous avez avisé de ça et puis donc vous avez été des négociateurs de premier plan là, dans toute cette histoire-là. Là.
Ben, nous, en fait, nos membres et l'équipe d'Execo, on est allé poser des questions justement au conseil municipal. Et c'est suite à ces questions-là qu'il y a une rencontre qui a été organisée avec les élus. Mais nous, on travaille aussi en concertation avec des organismes qui représentent les personnes qui ont d'autres types de limitations que celles motrices. Donc, c'est important pour nous qu'elles soient représentées. Nous, on a organisé la rencontre, mais ensuite, on a invité des partenaires à y participer. Entre autres, Société Logique, qui est un OBNL d'urbanistes et d'architectes qui sont spécialisés en accessibilité universelle, et deux regroupements d'organismes. Donc, Défi Montréal et le collectif d'organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap, le CODDPSH. Donc, on a eu la rencontre avec nos partenaires aussi, qui représentent différents types de limitations fonctionnelles.
Et pourtant, l'accessibilité universelle, ça semblait être une priorité là, pour la Ville de Montréal. Donc, d'un côté, on dit que c'est une priorité. D'un autre côté, on coupe les budgets. Et si vous ne seriez pas intervenu, le budget aurait tout simplement été coupé, n'aurait pas été remis. Est-ce qu'il n'y a pas un double message dans tout ça?
Ben effectivement, puis en fait, lorsqu'on posait des questions, c'est ce qu'on nous a répondu aussi, là, que l'accessibilité universelle, c'était une priorité, que dans les nouveaux projets, ça serait intégré, mais en même temps, de voir les budgets diminuer, ben effectivement, nous, on trouvait que c'était un peu contradictoire, en effet.
Puis c'est bien beau de mettre ça dans les nouveaux projets et encore une fois, les remercier, mais il y a tellement déjà d'immeubles à Montréal qui ne sont pas accessibles que les nouveaux projets, ils sont quand même un faible pourcentage de tout ce qui est possible à Montréal en termes d'immeubles. Donc, il faut quand même penser aux anciens immeubles et puis à leur accessibilité aussi. Hein.
Ben oui, puis en fait, il y a quand même récemment, là, je pense il y a 2 ou 3 ans, le vérificateur général de la ville a dénoncé le fait que de nombreux bâtiments municipaux ne respectent même pas le code de construction à l'heure actuelle.
Oui, bon.
Donc, pour nous, il y a vraiment un énorme travail à faire. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas du tout accessibles. Nous, on avait donné l'exemple de la nouvelle Alt-Chaleur qui a été ouverte sur la rue Saint-Hubert. Qui a vraiment plusieurs escaliers à monter pour y accéder, mais dans plusieurs arrondissements aussi, il y a encore des bâtiments municipaux qui ne sont pas du tout accessibles. Ouais, pour nous, c'est important de continuer à améliorer les choses.
Et c'est quand même des services qui sont importants. Alors, quand on parle d'une halte chaleur, quand on parle de bâtiments municipaux, c'est quand même des endroits où les personnes en situation de handicap là, doivent pouvoir se rendre, là.
Ben oui, puis tu sais, on donnait l'exemple de l'hôtel de ville aussi de Montréal où, par exemple, quelqu'un qui attend pour poser une question au conseil municipal au 2e étage doit descendre au 1er pour aller à la salle de bain. Donc c'est un exemple de,
ouais.
de choses qui c'est accessible là, mais il y aurait quand même beaucoup d'améliorations à faire, même dans le premier bâtiment de la ville là, qui est l'hôtel ouais. de ville. Donc il y a plusieurs autres endroits où par exemple, il n'y a pas d'ouvre-porte automatique ou il y aurait une salle de bain qui serait correcte, mais il y a une porte super lourde pour y accéder.
Ouais.
Donc, c'est pas possible de se rendre. Il faut essayer de trouver un employé de la ville ou quelqu'un qui va venir ouvrir la porte. Donc, il y a vraiment plein d'exemples d'endroits que l'accessibilité pourrait être beaucoup améliorée.
Oui, on appelle ça de l'accessibilité, mais entre guillemets, là, quand c'est un labyrinthe pour te rendre à la salle de bain, c'est accessible oui et non, là, attendons-nous, là, parce qu'une personne en situation de handicap qui a besoin d'aide pour y accéder ou qui doit faire un large détour, on en reparle sur l'accessibilité. Hein.
Ben oui, en effet.
Et puis là, maintenant que tout ça est placé, donc que vous avez eu la rencontre, vous entendez d'avoir une remise des budgets, mais on n'a pas de nouvelles de ça. Quelle est la suite là, pour Execo par rapport au projet de la ville en général? Avez-vous d'autres dossiers qui sont en cours? Avez-vous d'autres projets qui vont voir le jour?
Ben oui, mais en fait, il y a plusieurs dossiers sur lesquels on travaille, que ce soit par exemple le déneigement des débarcadères.
Ah oui, ça c'est un bon. Ouais.
L'accessibilité des commerces, il y a plein de sujets qui nous interpellent, là, l'aménagement sécuritaire là, lorsqu'il y a par exemple une piste cyclable entre le trottoir et un circuit d'autobus. En fait, tu sais, depuis la fin du chantier d'accessibilité universelle, c'est toujours pas clair qu'est-ce qui relève du service de la diversité d'inclusion sociale, qu'est-ce qui relève du bureau, de la lutte au racisme et la discrimination systémique, comment est-ce que les organismes vont être consultés à l'avenir. Les instances qui existaient avant le chantier d'accessibilité universelle n'existent plus pour l'instant. On va continuer à interpeller les élus à ce sujet-là. On a proposé des rencontres statutaires régulièrement avec Mme Black, là, qui est la nouvelle responsable de l'accessibilité universelle. On va faire le suivi, puis on espère pouvoir avoir des rencontres régulièrement pour discuter de ces différents enjeux-là.
En terminant, le communautaire est quand même en crise. On voit des journées de grève. On voit aussi, j'ai l'impression, un certain recul là, au niveau des droits des personnes en situation de handicap. Comment tout ça, ça vous impacte chez Execo?
Oui, ben on ne cache pas qu'on a été très déçus du dernier budget provincial la semaine passée. Lorsque les gouvernements délaissent leurs responsabilités, ça augmente la pression sur les organismes communautaires, ouais. Alors que nos ressources financières et humaines stagnent. Peut-être pour donner un exemple, là, moi je m'occupe d'habitation surtout. Dans le domaine de la santé, en fait, le centre de réadaptation de Lucie Bruneau du CIUS Centre-Sud a abandonné en 2024 là, son programme d'aide à la recherche de logement. Donc, des personnes, par exemple, qui étaient nouvellement en situation de handicap, pouvaient pas retourner dans leur ancien logement après leur réadaptation. À cette époque-là, ils pouvaient obtenir de l'aide pour trouver un logement accessible qui était offert par le CIUSSS. Ce programme-là a été abandonné. Donc, les personnes maintenant se tournent vers nous, y compris les travailleuses sociales du même CIUSSS, dans le but d'aider les personnes à trouver un logement qui correspond à leurs besoins. Mais ça devient de plus en plus difficile avec la crise de l'abordabilité des logements qui touche également les personnes en situation de handicap.
Oui.
Donc, nous, on essaie de conseiller, d'aider les personnes comme on peut, mais on n'a pas les ressources nécessaires pour aider efficacement les personnes. Donc, ça, c'est un exemple de programme public là, qui aidait les gens qui n'existent plus. Aussi, par exemple, il y a eu avec la création de Santé Québec, là, dans les semaines qui ont suivi, il y a énormément de personnes qui ont vu leur soutien domicile réduit ou coupé.
Oui.
Carrément. Donc, ça devient plus difficile pour les personnes de s'impliquer pour militer dans la défense collective des droits si l'aide en soutien domicile est coupée.
Oui.
Donc, c'est des exemples de comment ça peut affecter nous dans notre travail.
Donc, effectivement, vous avez une surcharge de travail, mais avec beaucoup moins de ressources, de moins en moins de ressources, en fait.
Ben, les ressources tangent, du moins.
Oui. Merci beaucoup d'avoir... Allez-y.
Oui, ben en fait, c'est ça. Pour les organismes de défense de droit, il n'y a pas d'indexation de nos budgets, des budgets qu'on reçoit. Donc, si nos budgets ne sont pas augmentés, ne sont pas indexés, comme c'est le cas pour les organismes qui donnent plus des services, ben c'est comme une diminution dans les faits là, à travers le temps.
Ben, c'est une diminution, étant donné que tout coûte plus cher, ben ça devient plus cher pour vous aussi. Hein?
Ben oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis merci pour votre travail. On espère que tout ça va aller dans la bonne direction dans les prochains mois.
Bien, merci beaucoup à vous.
Merci, bonne journée. Merci.
Bonne journée, au revoir.